sortir de la guerre, donc 8 mai 1945, donc après les horreurs générées par les régimes fascistes, notamment le génocide des juifs par les nazis, s'ouvre une période en fait de recomposition. D'une part, l'instauration de l'État-providence au sein des pays capitalistes occidentaux, la constitution du bloc soviétique à l'est de l'Europe sous la botte de Staline, et des aspirations en 1945 précisément considérables parmi la classe ouvrière, où les idées progressistes, l'importance des partis communistes n'ont jamais peut-être été aussi forts dans le siècle. Donc ma question est en fait très simple: qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des occasions manquées? Est-ce qu'il y a quel type de recomposition se met en place?
Alors c'est un grand débat. La première chose, peut-être, toujours j'aime bien partir de la littérature. Je crois que Stalingrad est déjà finalement un résumé des problèmes que pose la restauration d'un certain ordre capitaliste négocié, ou de cette espèce de pacte, que résume le pacte de Yalta ou les pactes de Yalta et Potsdam, de partage du monde de l'après-guerre. Le livre de Vassili Grossman, Vie et destin, montre bien comment dans Stalingrad, dans la bataille de Stalingrad, se manifestait une vitalité possible de la société soviétique, y compris l'espoir d'ailleurs chez des gens qui n'étaient pas forcément des oppositionnels mais critiques, que l'initiative qu'on leur avait demandée dans la guerre contre l'occupation allemande allait déboucher aussi sur, peut-être ils n'avaient pas les idées claires, mais sur une forme de société plus ouverte, plus démocratique, etc. Et il y a cette phrase terrible dans le livre de Grossman, si je me souviens bien, qui est de dire: mais ils avaient sous-estimé quelque chose, c'est qu'on ne demande pas de compte aux vainqueurs. Et là, paradoxalement, alors que le pronostic ou l'espoir de gens comme Trotsky ou plus généralement des oppositionnels de gauche avant la guerre, c'était un scénario comparable à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que un régime bureaucratique comme le régime soviétique ne survivrait pas à l'épreuve de la guerre, et que la seconde après-guerre mondiale serait une situation révolutionnaire aussi ouverte, avec une redistribution des forces et des cartes, comme on avait connu la première. Et d'une certaine manière, la position de Trotsky sur la création d'une petite internationale, c'est aussi, dans des conditions différentes, mais c'est aussi un remake de Zimmerwald, de Quintal, etc. Il faut organiser la petite cohorte internationaliste avant d'entrer dans la guerre pour avoir l'espoir d'en sortir avec quelque chose et pour faire face aux occasions qui ne manqueront pas de se produire. Alors ça, c'est pas passé, d'une part parce que le régime stalinien est sorti légitimé, paradoxalement, de sa victoire militaire, avec toute l'épopée. Il ne faut pas croire que c'était seulement en Union soviétique une mise en scène, mais la religiosité... moi, je suis à la limite du point de vue là, générationnel, mais la religiosité autour de l'Union soviétique dans les années 50 en France... quand un coureur soviétique comme Vladimir Kouts gagnait 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, ou Zatopek, etc., et le premier Spoutnik, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais que les gens croyaient, ils ont vaincu le nazisme, et voilà. Et puis, on ne prenait pas, on ne considérait pas ridicule les kolkhoziennes au front radieux, quand passent les cigognes, etc., etc. Donc, bon, il y avait relativement à ça, vous avez ça dans un film qui n'est pas un bon film d'ailleurs, Rouge Baiser, les Banylons et le Coca-Cola, c'était la culture américaine, donc il fallait boycotter Coca-Cola. Pourquoi pas, mais c'était quand même une vision très manichéenne du monde. Mais tout ça venait quand même de l'image propagée, d'une part évidemment autour du symbole Stalingrad, et puis par la suite par... l'expansion de ce qu'on a appelé le glacis soviétique, qui pouvait paraître comme une extension d'une expérience socialiste, ou passée pour telle à l'époque, bien que les éléments d'alerte étaient quand même déjà là. La crise avec la Yougoslavie a commencé très tôt, en 48-49. Les procès des anciens brigadistes, justement, en Espagne, en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, sont venus très, très vite, moins de 8 ans après la guerre. Mais donc, c'est contrairement à l'espérance d'une nouvelle période révolutionnaire, c'est au contraire une période de stabilisation négociée à deux grands partenaires ou plusieurs, mais enfin fondamentalement les États-Unis, l'Angleterre d'un côté et la direction stalinienne de l'autre, et qui chacun établit une discipline dans ses propres rangs de désarmement. Dans l'affaire espagnole, il y a eu des guérillas, y compris d'ailleurs de militants communistes, qui ont duré jusqu'après la guerre en pensant que les dictatures ne survivraient pas non plus à la guerre et que donc on allait jouer la revanche de la guerre civile dès 1945. Bon, et ça a été là aussi ramené, rappelé à l'ordre, rentré dans le rang, etc. Le désarmement de la résistance grecque est peut-être le cas le plus criant des conséquences de ce pacte. C'est en ça que la tragédie grecque me paraît... Il y a un seul bouquin, à ma connaissance, il y en a sûrement d'autres, je ne suis pas spécialiste, mais en français, il n'y a que le bouquin de Dominique Heu, de Les Capitanios, sur ça. Mais c'est autant, il y a beaucoup de littérature sur la guerre civile espagnole, l'affaire grecque est méconnue, elle est pourtant l'illustration, ou alors on l'a dans les romans de Tsirkas, Cité à la dérive, etc. Bon, mais... Et le cas qui a échappé à ça, on a une opposition entre les accords de Varkiza, qui sont les accords de désarmement de la résistance grecque, et les accords de Chongqing en Chine, qui étaient censés être l'équivalent, mais où là, Mao Tse-tung, si on lit, après quoi qu'on en pense par la suite, mais dit non, mais les armes du peuple sont les armes du peuple, on ne les rend pas, etc., etc., et qui essaie de louvoyer entre la diplomatie soviétique de l'époque, les intérêts diplomatiques de l'Union soviétique et la logique quand même. Ils avaient, eux, fait l'expérience d'un compromis en 1927 et ils avaient payé cher le prix. Donc l'idée, c'est une idée de survie. On ne recommence pas, à s'offrir finalement à un véritable massacre. Et du coup, il y a une logique propre qui est en partie militaire, qui n'a pas forcément un projet social mirobolant, mais qui fait que la révolution chinoise ne passe pas à la trappe. Bon, et puis c'est la Chine, il y a aussi un effet d'échelle là-dedans. Donc, alors le problème, c'est que du côté des révolutionnaires, pour rester au niveau européen et un peu plus largement, ils ont vécu la guerre, je crois, hein, peut-être on projette après coup, dans l'attente, justement, d'un scénario aussi turbulent que les années 18-23 au sortir de la guerre. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et le gros problème qui va... Alors, il y a des organisations qui disparaissent purement et simplement. Le PUM disparaît. L'ILP britannique, qui n'était pas une petite organisation, qui était un travaillisme de gauche quasi-révolutionnaire, de gens comme Orwell et d'autres à l'époque, disparaît. Et puis le courant trotskiste survit et éclate d'abord sur l'interprétation, justement. Certains pensent que la remise en route d'une économie capitaliste, c'est un épisode, mais que c'est un intermède et que, en fait, la guerre n'est pas finie. On va à court terme vers une nouvelle guerre mondiale et éventuellement une guerre mondiale directement entre l'Union soviétique et les États-Unis. D'autres pensent que c'est un rétablissement durable et que donc il faut se préparer à une traversée du désert. Mais toutes les fractures entre tel et tel courant ou l'apparition d'un groupe comme Socialisme ou Barbarie, qui à l'époque est anodin. Aujourd'hui, a posteriori, on pense que des gens comme Castoriadis, comme Lyotard, etc., ont apporté quelque chose, et c'est juste. Mais l'interrogation qui finalement traversait tout le monde, c'était de comprendre pourquoi et la possibilité de la survie du régime bureaucratique en URSS. C'est ce qui finalement fait la différence entre David Rousset, entre Castoriadis, entre d'autres courants de l'international qui continuent sur l'idée c'est un État ouvrier. dégénérer, mais pourquoi la dégénérescence dure aussi longtemps, pourquoi elle peut même s'étendre à des régimes comme ceux d'Europe de l'Est, et puis c'est des défaites, parce que d'une certaine manière, cette consolidation du camp, au deux sens du terme d'ailleurs, du camp stalinien, a aussi des répercussions aussi lointaines que... en Asie, en Indonésie, aux Philippines ou au Vietnam. 45, c'est aussi la liquidation de l'opposition de gauche vietnamienne qui n'était pas un groupuscule, mais d'un parti communiste vietnamien qui, lui non plus, pour autant, ne rentre pas dans le rang et continue sa résistance nationale. Des communistes... Alors ça, c'est aussi un effet. C'est qu'il y avait toute une légitimité de l'histoire du mouvement communiste de la Troisième Internationale qui était portée par des personnages qu'on connaît peu. Le fondateur du Parti communiste grec, Poliopoulos, était devenu oppositionnel de gauche, a été fusillé par les Allemands. Un des fondateurs du communisme indonésien, Tan Malaka, qui avait animé des guérillas indonésienne, bon, a été liquidée également à ce moment-là. Donc il y a toute une génération, finalement, qui pouvait disputer la légitimité de l'héritage de la révolution russe, qui, passe sous le rouleau compresseur. Et c'est vrai aussi en Europe de l'Est, ou en Tchécoslovaquie. Il y avait aussi bien sur le plan culturel un mouvement surréaliste qu'une opposition de gauche. Bon, et tout ça a été... finalement laminé par le rouleau compresseur, ce qui fait que les hypothèses sur lesquelles s'étaient constituées les oppositions de gauche dans les années 30, bon, ont été démenties. Alors là aussi, mais est-ce que c'était fatal? Est-ce que c'était une erreur de pronostic? Bon, moi je crois que c'est pas des problèmes. Enfin, la politique fonctionne pas au pronostic. C'est pas des paris comme ça, ce que les linguistes appelleraient plutôt du performatif, c'est-à-dire que on dit ce qui serait souhaitable ou nécessaire, on essaie de faire en sorte que ça devienne réel et possible. Bon, après, comme l'histoire n'est pas écrite d'avance, on voit ce qui se passe. Bon, et finalement, le redémarrage économique a permis après... Mais le problème, on dit les États-providence, bon, ou l'État social, enfin, les formes de régulation keynésienne sur lesquelles a reposé le compromis social, principalement en Europe, mais sous d'autres formes également dans d'autres régions du monde, c'est pas la même chose, mais les États populistes latino-américains, la croissance du Brésil dans les années 50-60, relèvent de mécanismes redistributifs, en tout cas, en partie comparables, ou les théories de la CEPAL sur le développement pour l'Amérique latine. Bon... Ça a été possible, d'abord rendu possible parce qu'il y a eu relance, effectivement, et croissance économique. Mais c'est aussi que la croissance économique a été payée par... Enfin, c'est la grande peur de la bourgeoisie. Ce n'est pas uniquement un cadeau ou parce qu'il y a eu une idée géniale de Keynes, etc. C'est qu'ils ont eu peur de tout perdre dans les années 30 et dans la guerre et au sortir de la guerre. Et que le compromis est une manière, justement, de céder quelque chose pour ne pas tout perdre. Mais sur cette base-là... C'est quelque chose, c'est un compromis qui a plus ou moins permis d'amortir la conflictualité sociale sur une trentaine d'années jusqu'à la fin des années 60 ou au milieu des années 70 et qui a donné l'illusion, alors ça aussi ça a été l'illusion d'une part que le capitalisme avait trouvé le moyen de maîtriser ses contradictions et de les gérer rationnellement. Et puis aussi des théories comme celle de David Rousset, comme quoi, par des voies différentes, le capitalisme occidental et la modernisation, même sous des formes bureaucratiques en Union soviétique, arriveraient à des formes convergentes, plus ou moins, d'une même société. C'est la conclusion de son grand livre que personne n'a lu, qui s'appelle « La société éclatée », qui est pourtant un des livres les meilleurs sur l'Union soviétique. Bon, mais qui termine un petit peu par cette hypothèse d'une convergence des deux grands. Il faut dire que ce n'était pas le seul. Hein, à l'époque, quand c'était quand même l'époque coexistence pacifique où Mauroy et Aragon écrivaient les histoires parallèles des États-Unis et de l'Union soviétique, hein, que le Parti communiste nous vendait en promotion, par abonnement, cartonné. Tout bon militant communiste au début des années 60, même s'il n'avait que 4 bouquins, il y avait dans la bibliothèque Mauroy-Aragon, histoire parallèle de l'Union soviétique et des États-Unis. C'est tout un symbole.